Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
À la une, cette réaction de la MONUSCO face à la rumeur faisant état de la construction par la mission en Ituri de 800 tentes pour accueillir des militaires des FARDC, militaires qui allaient se rendre à l'armée ougandaise. Pour la mission onusienne, cette rumeur relève de la pure désinformation qui vise à semer la panique dans la ville. Nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier à New York. Au menu, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, des morts et des blessés enregistrés. Entre-temps, le M23 bloque le travail de la mission onusienne, déclare la chef de la MONUSCO. Pour sa part, la ministre congolaise des Affaires étrangères pense que le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert en RDC. Et puis, l'invité de ce matin, Eleonore Assomani, porte-parole du CICR à Goma. Elle nous parle notamment de l'implication du Comité international de la Croix-Rouge dans le rétablissement de l'électricité dans la ville de Goma. À tous et à toutes, bonjour. Non, la MONUSCO n'a pas construit 800 tentes à Bunia pour désarmer les FARDC en cas d'attaque de la ville par les forces armées ougandaises. Non, le gouverneur de province n'a pas fui Bunia. Ces déclarations sont du responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, Jean-Tobie Okala, et du porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Ils se sont exprimés ainsi mercredi au cours d'une conférence de presse conjointe à la base logistique de la mission onusienne à Bunia. C'est à la suite des folles rumeurs faisant état de la fuite de certaines autorités de la province pour se mettre à l'abri. Plus de détails avec Yolande Isosia.
C'est depuis lundi que de folles rumeurs circulent dans les réseaux sociaux en Ituri et même à travers le pays, faisant état de la construction par la MONUSCO de quelques 800 tentes en vue d'accueillir des militaires de FARDC qui allaient se rendre à l'armée ougandaise. Pour Jean-Tobie Okala, le responsable de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, cela relève de la pure désinformation qui vise à semer la panique dans la ville et à fragiliser le moral d'une opinion déjà affectée par la situation sécuritaire à Goma et Bukavu.
Le fait d'ériger des tentes ne signifie pas que nous avons des informations alarmantes qui feraient état de l'attaque de la ville de Bunia ou de je ne sais quoi. Non, c'est une mesure préventive.
Pour sa part, le lieutenant Jules Ngongo, le porte-parole de l'armée en Ituri, appelle la population au calme. Il rappelle que la présence des UPDF, l'armée ougandaise, aux côtés des FARDC, n'est que le résultat de la mutualisation des moyens dans le cadre de la lutte contre les ADF et les groupes armés.
Travailler à côté des forces armées, comme toujours, pour protéger toute la population.
Le lieutenant Jules Ngongo invite la population à se méfier des fake news, un véritable poison qui sape le moral des populations et les efforts des autorités pour le retour de la paix à Ituri. Bunia, Yolande Isosia, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'armée en Ituri rassure les habitants qui s'inquiétaient après le passage mardi des troupes de l'armée ougandaise UPDF pour Rwampara. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des forces entre les deux armées, mutualisation qui dure depuis plus de 3 ans pour combattre les EDF ainsi que d'autres groupes armés locaux qui commettent des exactions contre les civils. Le lieutenant Jules Ngongo qui dénonce la manipulation de l'opinion et la désinformation orchestrée par les ennemis de la paix, invite la population à ne pas se fier aux rumeurs qui ne font que fragiliser le moral des habitants. On écoute le lieutenant Jules Ngongo.
Nous les avons ramenés, ils sont à Bunia dans le cadre des mutualisations de forces entre FARDC et UPDF pour continuer de plus en plus à consolider la paix que nous avons enregistrée pendant cette période d'état du siège, à consolider la protection de nos hommes, de nos populations. Et donc ça, c'est un mariage dont l'intérêt ou l'objectif final, c'est la paix, la sécurité de nos populations.
Certaines personnes estiment inopportune leur présence ici, d'autant plus que leur mandat, c'est pour combattre les rebelles des ADF. Quelle réponse vous leur réservez?
On dit que c'est un contrat, un accord bilatéral. Et ici, ils sont dans ce contexte ici que l'accord a été signé. C'est pour élargir certaines zones et lutter contre toute menace interne et externe qui inquiète en fait nos populations. Vous connaissez toutes les menaces que nous avons et donc ils sont là pour travailler avec nous dans le même objectif pour consolider les acquis de la paix et amorcer surtout l'élan du développement.
La coordination provinciale de la société civile, de son côté, appelle également la population au calme et surtout à ne pas propager des fausses informations pour alimenter la panique dans la ville. Restons toujours en Ituri, dans le territoire de Djougou. Plus de 700 personnes victimes des récentes attaques des miliciens de la Codeco dans les camps de pêche de Mita et Loromi vivent dans des conditions difficiles à Tchomia, au bord du lac Albert. D'après des sources locales, ces personnes, en majorité des enfants et des femmes, ont fui les accrochages entre les FARDC et cette milice depuis quelques jours. Leurs villages sont restés occupés par les militaires des FARDC. Ezekiel Mousalia nous fait le point.
Des centaines de civils, dont des enfants et des femmes, sont concentrés depuis lundi dans différents camps de pêche de Sabé et Nyakova dans le groupement de Tchomia au bord du lac Albert. Ces personnes ont abandonné leur village après un violent accrochage en début de semaine entre l'armée et un groupe de miliciens de la Codeco. Ces derniers voulaient s'attaquer aux civils dans une ferme afin de piller leur bétail. Les échanges des tirs qui ont coûté la vie à un militaire des FARDC et blessé 6 civils par balle, en plus du campement des militaires qui a été incendié. Des sources locales rapportent que les soldats des FARDC ont indexé certains civils, les accusant d'avoir comploté avec les miliciens. Une situation qui a semé la panique dans le village, poussant de nombreux habitants à se déplacer, craignant des actes de représailles. Un activiste des droits humains à Tchomia affirme qu'environ 100 familles ont trouvé refuge à Tchomia Centre, Sabé et Nyakova. Certains passent la nuit dans des abris de fortune et d'autres dans des familles d'accueil. Cependant, ajoute-t-il, ces personnes manquent de tout et ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi cette nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies hier à New York, réunion consacrée à la crise qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation s'est détériorée depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des morts et des blessés ont été enregistrés alors que d'autres personnes sont menacées de représailles. Pendant ce temps, le M23 bloque le travail de la mission onusienne. C'est ce qu'a déclaré Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, lors de son intervention à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute.
En dépit des multiples appels internationaux à un cessez-le-feu, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a continué sa progression dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et à aider à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville. Le M23 a également empêché la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. De plus, le M23 contrôle toutes les routes entrant ou sortant des zones sous sa domination. Cela pose de sérieux défis au personnel civil et en uniforme de la MONUSCO.
Une autre intervention au cours de cette même réunion du Conseil de sécurité et de l'ONU, c'est celle de la ministre congolaise des Affaires étrangères. Pour Thérèse Kayikwamba Wagner, le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert en RDC. La ministre dénonce les exactions enregistrées dans les territoires occupés par le Rwanda et ses alliés du M23. On écoute la ministre des Affaires étrangères dans cet extrait choisi par Freddy Lufuluabo.
Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Mounzenze. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce conseil. Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu, même scénario, pillage, hôpitaux détruits, route coupée. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins.
Dans l'actualité aussi, l'évasion des détenus. Hier, à la prison centrale de Kalemie, plusieurs coups de feu ont été entendus au niveau de la prison. Le porte-parole du gouvernement provincial du Tanganyika confirme l'information. Des sources sur place rapportent que quelques détenus ont été blessés par balles. Difficile pour le moment de savoir le nombre exact des évadés. Témoignage du président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou, Nathan Mugisho, au micro de Paulin Munanga.
Nous avons entendu les coups de balles crépiter du côté de la prison centrale. Du coup, on a vu qu'il y a une panique générale, colline de l'État, dans la commune Kalemie, où s'est suivie la prison centrale. Nous avons vu des personnes sans souliers en train de courir. Et après quelques minutes, d'autres personnes blessées, transportées, amenées à une polyclinique d'à côté. Et on nous a informé qu'il y a eu évasion à la prison centrale. Cette situation fait peur pour la population de Kalemie. D'abord, nous vivons dans la psychose par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Et puis les balles qui vont crépiter à 16h. Il y a eu des bandades au niveau du port de Kalemie où il y a un marché partout sur la route. Il y a eu panique. Ce que nous pouvons demander au gouvernement provincial, c'est de fournir les efforts maintenant pour sécuriser la population parce que les bandits qui étaient dans la prison se sont déversés dans la société pendant cette période où la population elle-même est dans la psychose, dans la peur de tout ce que nous vivons.
Et puis cette dénonciation du ministre provincial des ITPR du Kwilu, Jean Mayo Mbongopasi, signale que beaucoup de gens à Bandundu se font passer actuellement pour des déplacés et bénéficient des biens destinés à ces derniers alors que les vrais déplacés souffrent. Le ministre Mbongopasi, qui assure l'intérim du gouverneur du Kwilu, l'a fait savoir à l'occasion du lancement d'un projet de l'ONG Cause Rurale sur la sécurité alimentaire en faveur des déplacés de Kwamut vivant au Kwilu. On écoute Jean Mayo Mbongopasi dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Nous avions déploré cette attitude qui n'était immorale.
Parce que vous savez que nous sommes en face d'un problème de moralité. Beaucoup de nos frères ici à Bandundu prennent place comme des déplacés, alors que les vrais déplacés sont en train de souffrir. Ce qui arrive à nos frères, nous pouvons aussi demain être déplacés. Il faut s'imaginer que nous ne sommes pas à l'abri de ce que les autres connaissent. Si on a un peu de riz à leur donner, laissez que le vrai déplacé puisse bénéficier de cela. C'est une question d'honnêteté, une question de moralité.
Et c'est vrai que nous avons travaillé avec OCHA pour qu'on puisse identifier réellement le vrai déplacé. Et ce travail a été fait avec le concours de division de affaires humanitaires. Donc au moins aujourd'hui, nous sommes sûrs que les identifiés vont réellement bénéficier de l'aide et non ceux qui se font passer pour des faux déplacés. Il est très important qu'on puisse dénoncer des pratiques qui cherchent à nuire aux déplacés, à prendre la place des déplacés.
Restons dans le Grand Bandundu. Depuis quelques temps, des buffles ravagent les champs des paisibles paysans dans le territoire de Kasongo-Luunda, province du Kwango, particulièrement dans le secteur de Panzi. Selon l'administrateur de ce secteur qui alerte, cette situation est aussi parmi les causes de la rareté des produits agricoles dans ce coin de la province, créant ainsi la malnutrition chez les habitants. Arsène Koukangidila sollicite l'intervention du gouvernement provincial. Irène Mboma pour les détails.
C'est une situation préoccupante pour les habitants du territoire de Kasongo-Luunda, précisément ceux vivant dans les groupements de Kapemba situés dans la partie sud du secteur de Panzi. Nous sommes dans la province du Kwango. Ici, des bifles en circulation entre cette province et les pays voisins d'Angola commettent d'énormes dégâts qui affectent même la survie de la population. Selon l'administrateur de Kasongo-Luunda qui alerte, ces bêtes ravagent sauvagement les champs des paisibles citoyens qui ne savent à quel sein se vouer. Il s'agit entre autres des champs de manioc, de maïs, d'arachide et bien d'autres cultures. Situation qui, selon Arsène Koukangidila, est à la base de la rareté des produits agricoles qui occasionne aussi la malnutrition aiguë, sévère et chronique qui bat son plein dans ces coins du pays. Préoccupé, il en appelle à l'intervention du gouvernement provincial pour le refoulement de ces bifles.
Il y a beaucoup de bifles qui ravagent les champs. Même si les gens cultivaient, les bifles viennent ravager et ça pose aussi un sérieux problème. On est dans ce processus de refoulement et je pense que le gouvernement provincial va prendre prend des mesures pour les refoulements.
À en croire l'autorité territoriale de Kasongo-Lunda, cela fait déjà plusieurs années que les bifles détruisent les champs agricoles dans le secteur de Panzi. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La France rétrocède le camp militaire de Port-Boué à l'armée ivoirienne à l'occasion d'une cérémonie symbolique à laquelle participe notamment le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, et son homologue ivoirien, Tene Birahima Ouattara. La France va officiellement rétrocéder à l'armée ivoirienne le camp militaire de Port-Boué ce jeudi 20 février. La base accueillait jusqu'à présent le 43e bataillon français d'infanterie de marine.
L'invité.
Le comité international de la Croix-Rouge CICR s'implique pour appuyer le rétablissement de l'énergie électrique à Goma. C'est notamment en facilitant l'accès au personnel technique dans les zones non encore accessibles pour des réparations des lignes haute tension notamment. Les affrontements autour de la ville de Goma ont impacté considérablement la fourniture en eau et en électricité, occasionnant d'autres conséquences humanitaires, constat du CICR. Pour en parler, nous recevons Eleonore Assomani, porte-parole du CICR à Goma. Elle est avec Sifa Maguru.
Bonjour Madame Eleonore, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste l'appui ou la contribution du CICR pour le rétablissement de l'énergie électrique dans la ville de Goma?
Les affrontements qui ont eu lieu en janvier autour et dans la ville de Goma ont entraîné d'importantes perturbations des services essentiels. Des infrastructures clés pour la fourniture d'électricité et de l'eau ont donc été touchées, ce qui a engendré de graves conséquences humanitaires pour la population civile, y compris en termes d'accès aux biens essentiels, à la survie, comme l'accès à l'eau. Donc le CICR, en rétablissant l'électricité, a permis de relancer la station de pompage notamment d'eau de Kichero, qui alimente plusieurs quartiers de Goma et divers établissements médicaux, dont l'hôpital CDC à Ndosho, qui est également soutenu par le CICR.
Qu'est-ce qui motive ces gestes ou quelles réponses voulez-vous apporter en faveur de la population?
Ce rétablissement des lignes d'électricité qui restaure également l'eau est primordial pour la population, notamment au moment des combats où nous avons réussi à garder la ville sous perfusion avec des réparations d'appoint, ce qui a ensuite suivi au moment où les combats ont baissé avec des réparations plus de longue durée, y compris celles de la ligne de Virunga dans le nord de la ville et actuellement en cours les réparations de la ligne de la SNEL plutôt dans le sud de la ville. Donc ça, ce sont les lignes de haute tension et qui contribuera au rétablissement complet des lignes d'électricité pour la ville de Goma.
Depuis l'occupation de la ville par les rebelles, la criminalité a accru dans la ville de Goma et aux alentours. Quel état des lieux faites-vous par rapport aux incidents sécuritaire ainsi que le nombre des victimes que vous enregistrez?
Comme souvent dans les conflits armés, spécialement quand les combats, les affrontements ont lieu dans des zones densément peuplées ou dans des centres urbains comme la ville de Goma, on observe en effet une augmentation d'armes qui circulent et qui est rendue disponible à la population, ce qui provoquait en effet des pics de violence, que ça soit des pillages, des cambriolages, etc.
Est-ce que le CICR rencontre les défis éventuels pour apporter assistance à la population ces derniers temps?
Actuellement, un des défis les plus importants que rencontre le CICR pour apporter l'assistance aux populations affectées continue à être le pillage de nos entrepôts. Donc, plusieurs pillages d'entrepôts humanitaires ont eu lieu au moment des affrontements, fin janvier 2025. Et cela continue à être un défi pour nous, étant donné qu'un entrepôt du CICR également a été pillé. Car c'est arrivé à un moment où les intrants médicaux qui étaient stockés se faisaient déjà de plus en plus rares au niveau des structures médicales que nous tenions, c'est-à-dire CBC à Ndosho, l'hôpital CBC à Ndosho, ainsi que l'hôpital provincial de Goma, à cause des afflux très sévères de blessés, un nombre de blessés qui n'était pas du tout prévu dû à ces affrontements. Un deuxième défi qui se fait de plus en plus ressentir dans la ville de Goma et ses alentours, c'est la présence d'engins explosifs, à nouveau dans les conflits armés, lorsque certaines armes sont utilisées, il y aura donc des restes de guerre. Et ça peut être problématique parce que si ces restes de guerre ne sont pas bien identifiés et retirés, la population civile qui ne saurait pas forcément les identifier par eux-mêmes deviennent à risque, notamment les enfants qui vont peut-être jouer avec certains restes de guerre. Donc voilà, on appelle à toute personne en charge de travailler à ce que ces restes de guerre soient retirés de manière sécurisée afin que la population civile n'y soit pas exposée.
Madame Éléonore, est-ce que l'enterrement des victimes s'est terminé et qu'en est-il des interventions d'assainissement de la ville pour éviter la propagation des maladies?
En ce qui concerne les enterrements et la gestion des dépouilles mortelles, il faut savoir que à partir du moment où les corps sont collectés, le risque sanitaire disparaît. C'est-à-dire que l'important, étant donné que la collecte des corps est terminée, les risques ne sont plus là.
Merci beaucoup, Éléonore Assoumani, porte-parole du CICR à Goma.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.